Vous écoutez, on lit pour vous.
Immigration au territoire du Nord-Ouest. Intégration et diversité. Un texte de Cristiano Pereira de Réseau.presse, paru le 17 octobre 2024 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest. Lors de la célébration du 20e anniversaire du Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest, CDETNO, l'organisme a organisé une session de réflexion et de partage sous le thème « Regards croisés sur l'immigration au TNO, témoignage ». En fin d'après-midi du mardi 15 octobre, une vingtaine de personnes étaient présentes au Diamond Plaza où suivaient l'événement en ligne. Pendant l'ouverture de la session, François Affan, directeur général du CDETNO, a souligné l'importance de la culture d'acceptation et d'intégration au sein de l'organisation, ainsi que la valeur de la transparence. Nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons, a-t-il affirmé, mettant en avant une philosophie qui guide les actions de l'organisme. Selon M. Affan, cette approche renforce la confiance et crée un environnement où chacun se sent valorisé. Diversité et réussite. Le directeur du CDETNO a également insisté sur la diversité culturelle, véritable richesse au sein de l'organisation. Il a mentionné la présence de membres provenant de 10 nationalités différentes, dont la Belgique, la France, le Congo et le Cameroun. D'après lui, cette diversité reflète un peu l'image de ce que nous célébrons, illustrant à quel point le multiculturalisme est au cœur du succès de l'organisation. En revenant sur les 20 dernières années de travail au sein du CDETNO, François Affan a exprimé sa satisfaction face aux progrès réalisés malgré les défis. Ce n'était pas facile. Cela a représenté beaucoup de travail. Mais nous sommes très contents de ce que nous faisons, a-t-il déclaré, témoignant d'une fierté collective et de la détermination à poursuivre l'inclusion et l'excellence dans les années à venir. L'immigration au Canada à vol d'oiseau. La session s'est poursuivie par une présentation de Norbert Rutebuka, agent de projet au Centre d'accueil pour les nouveaux arrivants francophones à Calgary, en Alberta, sur l'histoire et l'influence de l'immigration au Canada, insistant sur son rôle dans la formation de l'identité du pays et sa croissance économique. La présentation a abordé des données historiques clés, les idées fausses courantes sur l'immigration et les contributions essentielles des immigrants à divers secteurs, notamment les soins de santé et la recherche scientifique. Le Canada est depuis longtemps un pays façonné par les vagues d'immigration. Depuis la création de la Confédération canadienne en 1867, plus de 17 millions de personnes ont immigré au Canada. Aujourd'hui, 23 % de la population est née à l'étranger, représentant des régions aussi diverses que l'Europe, l'Asie et les Caraïbes. Une personne sur quatre vivant au Canada est un immigrant, a souligné Norbert, mettant en avant l'augmentation continue de l'immigration au cours du siècle dernier et qui reste un moteur clé de la croissance démographique. Norbert a insisté sur le fait que l'immigration ne fait pas seulement croître la population du Canada, mais joue également un rôle crucial dans le marché du travail du pays. Cela est particulièrement évident dans des secteurs critiques comme la santé. Un travailleur sur quatre dans le domaine de la santé est un immigrant, avec 36 % des pharmaciens, 39 % des médecins et 23 % des infirmiers venant de l'étranger, a-t-il expliqué. La présentation a également démystifié plusieurs mythes persistants sur l'immigration. L'un de ces mythes est la croyance selon laquelle les immigrants volent les emplois des Canadiens de naissance. Norbert a fermement abordé cette idée fausse, expliquant que les immigrants comblent souvent des pénuries de main-d'œuvre dans des industries en forte demande. De plus, il a souligné que les immigrants sont souvent des professionnels hautement qualifiés, contrairement aux stéréotypes selon lesquels ils sont non qualifiés. Les immigrants qualifiés contribuent de manière significative à des secteurs comme la recherche scientifique et le développement, où ils représentent 34 % de la main-d'œuvre, a précisé Norbert. L'intervention de Norbert a également abordé les préjugés et stéréotypes, encourageant le public à réfléchir de manière critique aux mythes entourant l'immigration. Il a insisté sur le fait que la désinformation conduit souvent à des perceptions négatives des immigrants, notamment sur les réseaux sociaux. Cependant, il a affirmé que ces mythes ne résistent pas à un examen attentif. Par exemple, l'idée que les immigrants pèsent de manière disproportionnée sur le système de protection sociale n'est pas fondée. En réalité, comme l'a souligné Norbert, les immigrants sont des contributeurs à l'économie du Canada et non un fardeau pour les ressources. Quelques minutes après, quatre immigrants ont partagé leur récit personnel sur leur installation à Yellowknife, mettant en avant les défis rencontrés et les succès obtenus. Chaque témoignage a reflété la résilience, l'esprit d'entrepreneuriat et la gratitude pour le soutien reçu des organisations locales comme le CDETNO. Cynthia Mofanda Yazam, originaire du Zimbabwe, a déménagé dans la capitale ténoise en 2011 et a cofondé Best Movers. Malgré les nombreux obstacles qu'elle a rencontrés en tant qu'entrepreneuse immigrante, Cynthia a souligné que chaque obstacle, chaque défi a été une leçon apprise. Grâce au programme de mobilité francophone et au soutien du CDETNO, elle a pu recruter des travailleurs du Cameroun, permettant ainsi à son entreprise de se développer. Aujourd'hui, Best Movers est une des plus grandes entreprises de déménagement indépendante au Canada, opérant dans les 33 collectivités des territoires du Nord-Ouest. Chloé Fillet et son mari, Jason Bouderlic, sont arrivés au Canada en 2014 avec un visa vacances-travail. Après avoir rencontré des difficultés professionnelles dues à la récession, ils ont trouvé du soutien grâce au CDETNO. Nous avons reçu beaucoup d'aide du CDETNO, a partagé Chloé, en expliquant comment ils ont navigué dans le processus d'immigration et obtenu leur résidence permanente en 2016. Aujourd'hui, ils ont établi leur famille à Yellowknife. Jason a créé une entreprise, YK Welding, et Chloé, une autre, Astro by Coco. Muhammad Ali, originaire du Soudan, a immigré au Canada en 2005 et a raconté son parcours depuis Toronto jusqu'à l'Alberta avant de s'établir à Yellowknife. Il a cofondé Aurora Taxi, qui est depuis devenu un service de confiance dans la communauté. En réfléchissant à leur modèle commercial, Ali a déclaré « Nous essayons de connaître les gens. Les gens nous faisaient confiance avec leurs enfants, leurs proches. » Son histoire a mis en lumière l'importance de tisser des relations et la résilience nécessaire pour réussir, notamment durant des périodes difficiles comme la pandémie de COVID-19 ou l'évacuation de 2023. Enfin, Victoria a exprimé sa profonde gratitude envers les organisations locales qui ont aidé sa famille à s'installer à Yellowknife. « Je n'ai jamais vécu un tel accueil de ma vie », a-t-elle déclaré, en remerciant le CDETNO, la commission scolaire et toute la communauté francophone pour leur soutien. Son témoignage a souligné l'effort collectif mis en œuvre pour que les immigrants se sentent bienvenus et soutenus. C'était « Immigration au territoire du Nord-Ouest, intégration et diversité », un texte de Cristiano Pereira de Réseau.presse, paru le 17 octobre 2024 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest.
Vieillir avec un grand V, un texte de Chantal Guy, paru le 19 octobre 2024 dans la presse. Dans son nouveau livre, « 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse », Jeannette Bertrand affirme que vieillir, ça s'apprend, et que ça s'apprend jeune. Mais comment? Par les vieux eux-mêmes. Si tu te fermes les yeux quand tu regardes les vieux, que tu ne prends pas le temps avec eux en leur parlant et en les écoutant pour vrai, tu n'apprendras rien, dit-elle. Il y a des pays où on honore les vieux et on apprend d'eux, mais chez nous, un vieux, ça ne sert plus à rien. Jeannette Bertrand sait de quoi elle parle. En mars 2025, elle aura 100 ans. Les célébrations ont déjà commencé pour celle que le Québec considère comme un trésor national. Elle a fait la couverture du Elle Québec au mois de septembre 2024. On a inauguré une œuvre murale en son honneur à l'angle des rues Ontario et Montgomery, près de l'endroit où elle a grandi dans l'Est, et un nouveau prix littéraire portant son nom a été créé, qui sera remis au prochain Salon du Livre de Montréal. Le prix Jeannette Bertrand, qui veut célébrer l'engagement littéraire envers une société plus juste et égalitaire, a comme première finaliste Léa Clermont-Dion, Martine Delvaux, Claudia Larochelle, Marie-Hélène Larochelle et Élise Turcotte. Jeannette Bertrand, qui est l'auteur d'une quinzaine de livres, reçoit ce nouvel honneur avec humilité. « Je suis très contente parce que je n'ai jamais fait de littérature, c'est-à-dire passer des heures pour que ma phrase soit parfaite. La littérature, pour moi, était un moyen de communication. » Je voulais récompenser des gens qui écrivent dans le but de changer le monde, d'améliorer le sort des hommes et des femmes. Toute cette attention autour de son centenaire la ravit et la renverse. « Ça n'a pas de bon sens », s'exclame-t-elle. Remarquez, ça compense beaucoup toutes ces années où j'ai travaillé, où j'ai été critiquée. Je prends ça comme un retour du balancier. On m'a détestée et là, on m'aime. De la fierté pour les vieux. Mais qui peut bien détester cette grande dame? Se demande une petite jeune comme moi, qui a la moitié de son âge. J'en ai eu une vague idée en recevant un courriel ordurier d'un monsieur qui la traitait de féministe enragée en souhaitant sa mort, juste parce que j'avais annoncé son livre dans la rentrée littéraire. Je vous épargne la vulgarité de ce message, et d'habitude, je ne réponds pas. Mais là, c'était attaquer Jeannette, et la moutarde m'est montée au nez. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. À bientôt 100 ans, elle en aura enterré des minables qui ne laisseront dans l'histoire de l'humanité qu'une trace de break. Elle en a entendu et vécu des pires en un siècle. Mais ça fait rire Jeannette quand je lui raconte. Au fond, j'ai réagi comme mon vieil ami, aujourd'hui disparu, le journaliste Gérald Leblanc, ex-curé défroqué, qui avait tonné devant sa télé quand des jeunes avaient vertement critiqué Jeannette Bertrand pendant le débat sur la charte des valeurs. On ne touche pas à Jeannette. Il savait bien, lui qui avait grandi dans l'obscurantisme de la religion catholique, combien elle avait influencé les mentalités et défait de nombreux tabous dans notre société en s'attirant les foudres de bien du monde. Tout de même, je suis découragée qu'à 99 ans, après tout ce qu'elle a fait, des hommes se permettent encore de la mépriser. Ils ont peur que leur femme me ressemble, pense-t-elle. Après avoir consacré une grande partie de sa vie à l'égalité entre les hommes et les femmes, Jeannette Bertrand a un nouveau cheval de bataille. Redonner de la fierté aux vieux. Comme à son habitude, elle aborde frontalement le sujet, ainsi que les tabous de la vieillesse, dans « 100 ans d'amour », où elle parle de sexualité, d'incontinence et de dysfonction érectile. Presque 10 ans après son livre « La vieillesse par une vraie vieille », elle continue d'apprendre et de vouloir transmettre. Et on se rend compte que c'est un privilège inouï que de discuter avec une presque centenaire allumée comme ça. J'ai la chance de pouvoir exprimer ce que beaucoup de vieilles personnes pensent, et il y en aura de plus en plus. J'ai comme trouvé une façon de vivre que je veux partager, nous dit Jeannette Bertrand. Et qui mieux que Jeannette peut nous dire la vérité? Non, vieillir n'est pas de tout repos, c'est une adaptation, et il y a des jours vraiment plus difficiles que d'autres. Pour Jeannette, qui a toute sa tête, c'est plutôt le corps qui flanche. Elle s'est excusée d'avoir appelé un peu en retard parce qu'elle ne sent plus ses doigts et tape souvent le mauvais numéro. Sauf que, malgré certains deuils à faire, elle se réjouit tous les jours d'être en vie et d'être aux côtés de l'homme qu'elle aime depuis 41 ans. Ses trucs pour bien vieillir sont de bouger, de se sentir utile, d'être encore curieuse, de donner et de recevoir de l'amour, d'être bien entourée. Si ça prend un village pour élever un enfant, croit-elle, ça prend aussi un village pour qu'un vieux s'épanouisse. Vieux et heureux. Jeannette n'entretient aucune nostalgie. Jamais vous ne l'entendrez dire que c'était mieux avant. Oh non, et Seigneur, c'était pire avant. J'étais honteuse d'être une fille. Je me suis construite contre l'inégalité entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai été agressée sexuellement. Mais tout le temps, parce que c'était pire avant, c'était dans les mœurs. Et personne ne croyait les femmes quand elles disaient être abusées. Pas même son père, que pourtant elle adorait. Elle trouve que les vieux qui vivent heureux sont malheureusement invisibles dans les médias alors qu'ils ont tant à donner et qu'ils ont eux aussi besoin d'exemples. C'est pourquoi elle a lancé, il y a quelques années, une invitation aux personnes âgées à écrire leur autobiographie. Elle a depuis reçu plus de 2000 manuscrits et est très impliquée auprès de l'Institut de gériatrie de Montréal, qu'elle désire ardemment faire connaître. Sur le site web de la fondation de l'Institut, on peut lire de nombreux témoignages inspirants dans le cadre de son projet « Les aînés en manque de modèles ». « C'est mon bébé, ce projet », dit-elle. « On a la chance d'avoir ça à Montréal. L'Institut de gériatrie devrait être aussi connu que l'Institut de cardiologie. Ils sont tellement gentils. À ma première visite, on m'a dit qu'on n'allait pas guérir mes bobos, mais m'aider à avoir une vieillesse confortable. J'ai aimé ça. Alors que l'espérance de vie n'a jamais été aussi prolongée, on se rend compte, en lisant Jeannette, qu'on se magasine une triste vieillesse si la peur de vieillir nous tenaille trop tôt. Ça s'adresse beaucoup aux jeunes, ce livre-là, dit-elle. Si à 40 ans tu as peur de vieillir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être malheureux pendant toutes ces années qui te sont données. Tu n'en profiteras pas. Avec ce livre, je vais donner un peu d'estime de soi aux vieux. Et celle qui a combattu toute sa vie le sexisme semble bien armée pour combattre l'âgisme. Tant que les femmes ont été considérées comme inférieures, nous n'avons pas avancé, note-t-elle. Depuis qu'on a fait nos marques, qu'on a pris notre place, on commence à nous respecter. C'est la même chose avec les vieux. Il faut commencer à les respecter et avoir en chacun d'eux une personne. J'ai pris des notes mentales en lisant « Cent ans d'amour », car ce n'est pas tous les jours qu'on peut profiter de l'expérience d'une bientôt centenaire aussi lucide. Parce qu'on va tous passer par là. Et Jeannette, encore une fois, défriche le chemin. C'était « Vieillir avec un grand V », un texte de Chantal Guy, paru le 19 octobre 2024 dans la presse.
Préparer son potager pour la prochaine année. Un texte commandité paru le 7 octobre 2024 dans la presse. Votre potager a été généreux cette année? En cette période de dernière récolte, il est temps de traiter votre jardin aux petits oignons une dernière fois avant l'arrivée de la saison froide. Voici 6 conseils pour bien fermer votre potager et le préparer en vue du prochain printemps. Récoltez vos derniers légumes. Si vos plants produisent encore, cueillez les légumes peu résistants au froid, tomates, concombres, poivrons et courgettes notamment, avant la première gelée pour ne pas les perdre. Si vos tomates sont encore vertes, terminez leur mûrissement à l'intérieur. Les légumes plus rustiques, betteraves, carottes, choux et panais, entre autres, peuvent se récolter un peu plus tard. Vous pouvez attendre une ou deux gelées avant de les cueillir, voire plus longtemps si vous les protégez avec de la paille ou une toile géotextile pour améliorer leur goût. Les températures froides les poussent en effet à convertir leur amidon en sucre, ce qui les rend plus délicieux. Nettoyez votre potager. Quand la récolte est terminée, arrachez toutes vos plantes potagères annuelles. Cette action vous aidera à réduire le risque de maladies et de ravageurs persistants qui affectent de nombreux plants, comme ceux des tomates et des concombres. Certains insectes nuisibles et maladies hivernent dans les débris végétaux et pourraient contaminer vos cultures la saison suivante. Enlevez également vos tuteurs, piquets, treillis et supports à plantes. N'oubliez toutefois pas de les désinfecter avant de les entreposer pour l'hiver pour éviter toute infestation l'année prochaine. Taillez les plantes potagères vivaces. Les plantes potagères vivaces comme la ciboulette, la menthe, l'origan, le thym et la sauge peuvent passer l'hiver en pleine terre et repousser au printemps. Vous pouvez les tailler à quelques centimètres du sol afin d'éviter la prolifération des insectes nuisibles et la propagation des maladies. Cela dit, vous pourriez aussi décider de laisser les tiges et les feuilles mortes sur place, ce qui leur offrira une certaine protection contre le froid avant les premières bordées de neige. Dans tel cas, vous n'aurez qu'à faire un ménage de vos plants au printemps prochain. ameublissez et enrichissez le sol. Une fois vos plantes potagères enlevées, bêchez la terre en la retournant sur toute la surface jusqu'à une profondeur d'environ 20 cm. Profitez-en pour éliminer toutes les mauvaises herbes qui ont poussé durant l'été afin qu'elles ne fassent pas compétition à vos plants la saison prochaine. Ajoutez de la terre pour niveler le terrain et compenser la perte subie lors de l'arrachage de vos plantes annuelles. Intégrez ensuite soigneusement une généreuse couche de compost pour que celui-ci ait le temps de se décomposer en partie pendant l'hiver. Cela contribuera à la croissance optimale de vos végétaux en favorisant une bonne circulation de l'air, de l'eau et des nutriments dans le sol. Plantez certains légumes pour l'an prochain. Entre la mi-septembre et les premiers gels, c'est le temps idéal pour planter votre ail. Chaque gousse, cailleux, mise en terre, produira un bulbe l'année suivante, fin juillet ou début d'août. Les fleurs d'ail pourront également être récoltées en juin dès qu'elles auront fait un ou deux tours. Les poireaux peuvent aussi se semer en automne pour une cueillette précoce au printemps ou au début de l'été suivant. D'ailleurs, comme ces plantes potagères sont vivaces, vous n'avez qu'à laisser quelques plants en place pour qu'elles se pérennisent. Les bulbilles d'oignons égyptiens, un autre légume vivace, peuvent aussi être semés en octobre afin d'obtenir une récolte l'été suivant ainsi que les années subséquentes. Recouvrez votre potager de paillis. Pour protéger le sol de votre potager contre la compaction, l'érosion, les mauvaises herbes et le lessivage des nutriments, vous pouvez le recouvrir d'une épaisse couche de paillis. Cela permettra notamment de maintenir la terre et la neige en place lors des journées de grand vent. Si vous avez accès à beaucoup de feuilles mortes sur votre terrain, vous pouvez aussi les déchiqueter avec la tondeuse à gazon et les répandre à la surface de votre potager. Vous n'aurez qu'à retourner le sol au printemps, ce qui permettra d'enrichir davantage votre terre. Vous pouvez également choisir d'installer une toile géotextile. En préparant votre potager à l'automne, vous serez prêt à planter dès que les conditions météorologiques le permettront au printemps. C'était « Préparer son potager pour la prochaine année », un texte commandité paru le 7 octobre 2024 dans La Presse.